Alors, bonsoir à tous. Merci de votre ponctualité et bienvenue à ce bistrot des ethnologues. On est ravis d'être ce soir à la médiathèque de Gignac. Merci à Lucie pour son accueil. C'est la dernière séance de l'année. Voilà, donc on est bien contente de voir qu'il y a du monde ce soir pour écouter donc Dorothée Ducy et Elsa Faugère sur les apicultures au XXIe siècle, donc à l'occasion de la présentation de ce livre, Écologie versus Business. Voilà, donc elles vont présenter, comme le veut la tradition du bistrot, cet ouvrage, qui est en fait un ouvrage avec de nombreuses contributions. Il y a plus d'une vingtaine de contributeurs, et c'est un ouvrage aussi qui est transdisciplinaire. Voilà, elles vont nous expliquer tout ça. Ça pose vraiment la question aussi de, pas seulement de l'apiculture, mais aussi qu'est-ce que les sciences sociales peuvent donc dire des mondes agricoles contemporains, comment elles peuvent travailler avec d'autres disciplines, voilà, qu'est-ce que l'observation de l'apiculture peut dire aussi du reste du monde vivant, humain, non humain, aujourd'hui. Voilà, et donc avant de passer la parole à Elsa et Dorothée, donc qui sont anthropologues, hein, toutes les deux. Je voulais aussi donc remercier nos partenaires, donc bien sûr la médiathèque de Gignac, mais aussi donc le conseil départemental de l'Hérault et la DRAC. Voilà. Et puis merci du coup pour toute cette saison, donc montée aussi avec l'équipe, Gaëlle Loiseau, la présidente qui est là, Christelle, la salariée, et puis. Ça a été donc un plaisir. Après la présentation, il y aura un petit débat et on pourra boire un verre, comme le veut aussi la tradition du bistrot. Lucie, est-ce que tu veux dire un petit mot pour la médiathèque ?
Juste vous remercier tous d'être là ce soir. Je suis contente de voir que la salle est un peu étoffée. Remercier Elsa, Dorothée, et puis Christelle, Anaïs, le bistrot. De proposer cette délocalisation de la ville à la campagne. C'est un partenariat qui dure depuis quelques temps maintenant. On en est très heureux. C'est l'occasion pour nous de recevoir des débats et des échanges de qualité. Et on espère vous retrouver dans les années à venir. Voilà, merci à tous et puis bonne soirée.
Voilà. Merci. Alors, dans le binôme Elsa et Dorothée, voilà Elsa Faugère et je suis Dorothée Ducy. Pour que puissiez nous identifier. Alors oui, on est très contente d'être là, de découvrir Gignac et cette belle médiathèque. Et merci au Bistrot des ethnologues, c'est toujours un plaisir de venir discuter dans cet espace de présentation des travaux d'ethnologie contemporains. Alors là, notre mission de ce soir est très difficile parce que le Bistrot des ethnologues, ça consiste à présenter des matériaux empiriques en ethnologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est notre métier d'ethnologue et nos enquêtes, et puis après en discuter. Mais là, on vient présenter, comme tu l'as dit, un livre collectif interdisciplinaire où il y a quelques contributions d'anthropologues et d'ethnologues, mais pas la majorité. Il y a des sociologues, des politistes, bon, voilà. Et du coup, on s'est astreint quand même à respecter la consigne. Donc, notre exposé, il est en trois temps. On va vous expliquer comment on en est venu à s'intéresser aux abeilles, parce que Elsa, comme moi, on a des trajectoires scientifiques et de centres d'intérêt de recherche qui sont pas les mêmes et qui ont convergé à un moment donné autour des abeilles et de l'apiculture. Donc on va retracer un peu nos trajectoires pour montrer aussi comment à un moment donné c'est devenu une question l'apiculture et qu'est-ce qu'on pouvait dire ou à quoi on pouvait s'intéresser à travers ça. Et donc depuis cet exposé, il traite depuis les premières années de notre intérêt pour l'apiculture et autour des abeilles en voie de disparition et des apiculteurs qui travaillent avec les abeilles et puis des scientifiques, des biologistes de l'abeille, des apidologues qui essayent d'aider les apiculteurs à résoudre les problèmes de la disparition des abeilles. Et jusqu'à, donc notre exposé, voilà, il parle de ça, jusqu'à aujourd'hui où on travaille encore toutes les deux à l'élaboration d'un livre en préparation, c'est de ça dont on va vous parler, d'un livre qui n'existe pas encore. Alors c'est difficile comme travail de présentation. et un livre qui parlerait de la construction politique des savoirs scientifiques et techniques autour de l'apiculture. C'est ça qu'on essaie d'élaborer. Dans une première partie de l'exposé, donc on explique nos trajectoires et cette histoire d'abeilles et de la rencontre des sciences sociales et des mondes apicoles. Ensuite, on va présenter le livre quand même, le livre qui est là et voilà, pour lequel on a été invité. Et puis, dans une troisième partie, sous la forme d'une conclusion, discussion, on présentera du coup les questions que soulève l'expérience de plusieurs années de recherche sur projet, en fait, ce qui est un dispositif pas classique, pas habituel en ethnologie, donc de recherche sur projet financé, programmé, et en travaillant conjointement avec des biosciences, des sciences expérimentales. Et voilà. Et
Elsa. Voilà, donc j'ai commencé ce récit, donc c'est un peu narratif hein, pour raconter, comme on aime bien dans notre discipline. Donc moi, je suis anthropologue à l'INRA. Et pendant une dizaine d'années, avant de m'intéresser au monde apicole, j'ai étudié des grandes expéditions naturalistes qui étaient organisées par des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et qui faisaient des inventaires de la biodiversité dite sauvage et négligée dans les pays du Sud. Ils inventoriaient des invertébrés terrestres et marins méconnus au Vanuatu, à Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans ces grandes expéditions, ce qui m'intéressait, c'était la production des savoirs scientifiques sur la nature dite sauvage et la circulation de ces savoirs entre les scientifiques professionnels et les amateurs qui participent beaucoup à ces grandes expéditions. Et en 2012, il y a un écologue de l'INRA qui s'appelle Michael Henry, qui est venu faire un exposé dans mon unité de recherche, éco-développement à Avignon, sur les abeilles et la pollinisation et sur la disparition des abeilles. Et en l'écoutant, je me suis dit que les mondes apicoles seraient un bon terrain d'enquête pour moi, pour un nouveau terrain, parce que c'était en partie dans la continuité de ce que je faisais sur les grandes expéditions, mais avec davantage d'enjeux économiques, sociétaux et politiques liés à la question des abeilles et des abeilles domestiques et à leur disparition. Et ce sujet était plus en phase avec mon institut de recherche, l'INRA, qui travaille beaucoup plus sur la biodiversité cultivée que sur la biodiversité sauvage. Donc à partir de là, à partir de 2012 environ, j'ai commencé à essayer de monter un réseau de chercheurs en sciences sociales intéressés par les mondes apicoles, dont vous connaissez pour certains la vie de la recherche, on dépose des projets de recherche, on travaille pour essayer d'obtenir des financements, parce que comme l'a dit Dorothée, ça sera un questionnement qu'on aura dans la troisième partie de l'exposé, la recherche aujourd'hui ne se fait plus que sur projet, et ça a des implications importantes pour l'exercice du métier d'ethnologue, et ça on en reparlera plus tard. Donc j'ai monté un collectif SHS de sciences sociales, dont Dorothée, qui... Donc moi, mon fil, c'était plutôt les sciences en société, on va dire, les savoirs scientifiques et les sciences en société. Et donc Dorothée, je te repasse la parole.
Ah, c'est beau, ce... tac, tac, tac. Et ben alors moi, non, je venais d'un tout autre paysage intellectuel. On s'est connus en fait au siècle dernier, on a fait notre thèse toutes les deux en Nouvelle-Calédonie sur des sujets différents, mais on était océanistes à la base. Et bon, après, trajectoire différente. Et moi, j'ai travaillé sur la construction de la ville coloniale, l'environnement urbain, des questions d'environnement, mais en Océanie. Bon. Et puis après, j'ai fait un saut thématique et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Je ne fais pas mon âge. Et donc ça fait déjà 100 ans que je suis ethnologue, mais on dirait, mais voilà. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur un sujet complètement différent, sur l'inceste, en fait, les violences sexuelles infligées aux enfants dans les familles. Ça n'a pas de rapport. Et du coup, en 2012, 14, 15, j'ai sorti un livre que j'ai présenté d'ailleurs au Bistrot des ethnologues et qui a eu un certain écho, mais ce sujet est devenu... Bon, alors, évidemment, plus récemment, c'est devenu un sujet dont on parle. Mais pendant des années, c'est un sujet sur lequel on ne pouvait pas parler, et ni dans la sphère académique, ni nulle part. Les gens regardaient leurs pieds, ils ne pouvaient pas supporter d'entendre des récits. Enfin, c'est notre métier d'ethnologue, hein, de raconter. Bon. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de parler des rapports de domination qui structurent les familles et la société, ou peut-être dans d'autres espaces de la société. Et justement, les questions de nature, d'écologie, C'est aussi des questions où c'est aussi des champs thématiques où il y a des rapports de domination structurelle, des rapports de prédation, en tout cas des choses à discuter ou à explorer de ce point de vue-là. Et c'est à ce moment-là que nos trajectoires se sont rencontrées à nouveau. Et voilà, je me suis dit, on doit pouvoir tricoter, articuler ces questions-là, mais sur les abeilles.
Voilà. Donc, on a organisé des journées d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, au Musée de l'Homme. On a créé le réseau Abeilles et Sociétés, qui a disparu entre-temps, on pourra en rediscuter si vous voulez. Et en travaillant sur ça, on a constaté le peu de travaux en sciences sociales sur l'apiculture par rapport aux travaux sur l'agriculture. Et on a été... Donc, c'est un peu ce qu'on raconte, et là, c'est l'introduction du livre que je vais vous présenter maintenant, qui est une mise en perspective, en fait, des travaux en sciences sociales en France sur les mondes apicoles. Donc on était étonnés qu'il y ait aussi peu de recherches en sciences sociales sur l'apiculture, parce que pourtant le sujet est assez médiatisé, et il existe aussi beaucoup de travaux en sciences sociales sur l'agriculture, notamment à l'INRA, au CIRAD, à l'IRD, dans d'autres instituts de recherche. Or, jusqu'aux années, on va dire 1990, à part les apicologues, les apiculteurs, les apicultrices, il y avait quand même un désintérêt pour ces questions-là, pour les abeilles et l'apiculture, peut-être parce que c'est une activité discrète, voire assez secrète, l'apiculture. Il faut aussi dire qu'il y a très peu d'apiculteurs en France. Il y en a environ 55 000, dont il n'y a même pas 2 000 apiculteurs professionnels, environ 1 700, d'après les derniers chiffres. Et le marché du miel est un marché économiquement peu important par rapport aux autres marchés agricoles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 90, on constate qu'il y a un intérêt plus général qui se développe pour les abeilles et l'apiculture. Et cet intérêt apparaît avec, certains, je pense, je ne sais pas s'il y a des apiculteurs dans la salle, mais en tout cas, le grand public en a entendu parler. Ça apparaît avec la médiatisation de la disparition des abeilles liée à l'usage d'une nouvelle génération de pesticides, de la famille des néonicotinoïdes, des pesticides comme le gaucho, le régent, qui sont concomitants, l'usage de ces nouveaux pesticides sont concomitants avec ce qui a été qualifié par les biologistes à cette époque-là, dans les années 90-2000, avec le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles qui est constaté aux États-Unis et en Europe. C'est cette disparition, en fait, des colonies d'abeilles qui attire l'attention. Et au même moment, la discipline économique s'intéresse. Il y a une sous-discipline, on va dire, qui s'appelle l'économie écologique et qui cherche à évaluer monétairement les services écosystémiques. Et à ce moment, dont la pollinisation. Et à ce moment-là, les économistes découvrent ou publient un certain nombre de travaux importants sur la valeur monétaire, notamment de la pollinisation. Et on découvre aussi la valeur non monétaire de la pollinisation. C'est à cette époque-là, au début des années 2000, on va dire grosso modo, que l'abeille devient sentinelle de l'environnement. Et c'est dans ce contexte politique, institutionnel et médiatique favorable que le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles prend une nouvelle ampleur et une nouvelle dimension, une nouvelle signification. Donc on peut dire que le grand public, entre guillemets, découvre ainsi que les abeilles disparaissent, alors même qu'elles ont une grande valeur monétaire et non monétaire considérable liée à leur activité de pollinisation. Donc c'est la corrélation entre ces deux phénomènes qui marque un tournant dans le traitement sociétal du sujet, qui devient dès lors politique, en fait. Et c'est cette politisation, voire cette dramatisation, qui va attirer l'attention de nouveaux chercheurs en sciences sociales au cours des années 2010. Il y a toujours eu cependant des travaux en anthropologie sur les abeilles, sur les mondes apicoles plutôt, deux approches classiques, pour dire vite. Une approche qu'on appelle d'anthropologie symbolique, qui s'intéresse aux significations culturelles et philosophiques des abeilles et du miel en Europe depuis l'Antiquité. Donc on pense notamment aux travaux de Gilles Tétard, le sang des fleurs, anthropologie de l'abeille et du miel, qu'il a publié en 2001. Et une deuxième approche, qualifiée d'ethnobiologique, qui s'intéresse aux relations entre les sociétés et l'environnement, avec soit une focale sur les savoirs locaux et les techniques apicoles, soit une focale plutôt sur la relation homme-animal, la relation homme-abeille, avec les travaux pionniers d'un ethnologue du CNRS, qui s'appelle Philippe Marchenet, qui en 1979 a publié « L'homme et l'abeille ». Donc ces deux approches anciennes existent toujours. On les trouve notamment au CNRS et à l'Université de Montpellier, au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle évolutive, avec des travaux d'Edmond Dounias, de Bertrand Schatz, et notamment une thèse sur l'apiculture dans les Cévennes d'Ameline Le Hébel-Perron. Bon, je ne sais pas si je vais égrener un peu tous les... Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a eu un travail aussi plus récent sur le bois des ruches, une équipe d'ethnologues et de scientifiques plus durs qui se sont intéressés au bois des ruches et à l'effet sanitaire, on va dire, du bois des ruches. Il y a une thèse soutenu en 2019 d'Antonin Adam sur les systèmes apicoles et les dynamiques territoriales en Corse et au Maroc, des travaux d'un anthropologue, Nicolas César, qui travaille en Asie sur les savoirs locaux sur l'apiculture. Bon, voilà, il y a un certain nombre. Il y a aussi une thèse en cours d'une de nos doctorantes sur les conservatoires, la conservation des abeilles noires en France. Et il y a aussi, et c'est de ça dont il est question dans notre livre, trois nouvelles thématiques, on va dire, qui émergent au cours des années 2010 dans les travaux en sciences sociales sur les mondes apicoles. Une première thématique sur la filière apicole et la profession d'apiculteur et d'apicultrice. Une deuxième thématique que nous, on a un peu plus explorée, dont on parlera en dernière partie de l'exposé, sur la circulation des connaissances scientifiques et non scientifiques dans et entre les mondes apicoles et technico-scientifiques, c'est-à-dire comment les apiculteurs et les scientifiques spécialistes des abeilles collaborent ensemble, échangent leur savoir autour des ruches, des problèmes techniques, sanitaires et autres. Et enfin, une troisième thématique qui concerne les relations entre les mondes apicoles et agricoles autour de l'usage des pesticides et de la pollinisation. Il y a notamment une thèse en cours de Robin Munier qui soutiendra en fin d'année et qui porte sur la pollinisation. Donc voilà, ça, cette rapide présentation, cette mise en perspective un petit peu des travaux anthropologiques, c'est un peu l'introduction du livre. Et donc maintenant, Dorothée va présenter le contenu et la structure du livre qui reprend un peu...
En fait, je vais un petit peu redire ce que tu as dit. C'est-à-dire, l'introduction présente en gros le plan du livre. Et on a essayé, en préparant l'exposé, on a fait plusieurs filages, on a essayé différentes formules pour présenter ce livre collectif. Il n'y en a pas une qui est très satisfaisante, je dois le dire. C'est compliqué de présenter un article ou alors un autre. On va présenter les 15 ou les 16, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre? Il faut retenir que on sait... Les contributeurs, disons les chercheurs, jeunes chercheurs, apprentis chercheurs ou chercheurs confirmés en sciences sociales ou en sciences dures, mais qui travaillent sur les mondes apicoles, avec une approche qualitative dont Elsa a parlé. Grosso modo, on est un tout petit réseau qui travaillons là-dessus en France. Le gros des troupes a participé à contribuer au livre. D'autres contributeurs ont participé à un numéro de revue d'études rurales consacré aux mondes apicoles. Voilà, et en gros, ça fait l'intégralité des chercheurs français qui travaillent sur les mondes apicoles. Voilà, dans ces deux publications. Donc, dans notre livre, on a des contributions qui portent sur les apicultures de France, d'Europe, et il y a des exemples, des cas. Sur les différents continents, donc d'apiculture. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, quelle que soit l'approche de sociologie, de sciences politiques, à peu près partout au monde, c'est vraiment le thème, le titre du livre, c'est-à-dire l'ensemble des thématiques et des problématiques peut se... dérouler sur un continuum qui va de l'écologie versus les affaires, le business. C'est-à-dire que partout au monde, il y a des apiculteurs professionnels qui doivent vivre de l'apiculture, et partout au monde, il y a des apiculteurs qui sont soit, selon où on se trouve dans le monde, des cueilleurs de miel, ou des apiculteurs amateurs, comme il y a en France, où on dit apiculteurs de loisirs, et qui n'ont pas le même cahier des charges que les apiculteurs professionnels. Imaginez, si vous avez un plant de tomate dans votre jardin, si vous participez au même syndicat agricole qu'un industriel qui a une multinationale de la tomate, vous êtes dans le même syndicat, et imaginez bien que ça fait des conflits, parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même activité en réalité. Bon. Là, c'est un peu ce qui se passe. Donc, dans notre livre, il y a des articles, des contributions sur la filière, comment s'organise cette filière qui est une émanation du monde agricole, donc les syndicats apicoles. Alors, c'est extrêmement clivé, extrêmement conflictuel pour la raison que j'ai dite. C'est un peu toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire si on doit en vivre, on fait pas les mêmes arbitrages si on doit payer son salaire ou d'autres salaires, ses investissements, son loyer, enfin bon, la vie, on n'a pas le même cahier des charges que si on a 12 ruches et qu'on a d'autres revenus par ailleurs et que c'est un loisir du week-end. On a aussi des articles qui s'intéressent à des services disons, des pratiques apicoles pas centrées sur la production de miel, mais sur, par exemple, la pollinisation ou la production de gelée royale. Ou, donc des, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce métier qui, bon, ça existe depuis toujours, hein, la pollinisation avec les ruches, mais c'est une... Comment ça s'organise, comment ça se professionnalise aussi la pollinisation par les apiculteurs, comment ça fonctionne, il y a des contributions là-dessus. Il y a des contributions donc, dans les différents continents, en fait, qui toutes, voilà ce qu'on peut retenir, c'est que ça met en évidence que plus on standardise les pratiques apicoles, c'est-à-dire avec des ruches à cadres, par exemple, et plus les ruches à troncs, ou plus d'aller chasser le miel dans les ruches. Plus on standardise avec des ruches à cadres, plus l'apiculture devient technique, et plus on perd en richesse sur les savoirs locaux, et plus on s'émancipe d'une apiculture qui est en équilibre avec un écosystème et avec une abeille qui vit bien dans son environnement. Ça, il me semble, là, j'ai relu, on a bien relu le livre, parce que ça fait 3 ans qu'il est sorti, pour voilà, comment on peut synthétiser ou prendre la quintessence du livre, il me semble, mais si d'autres l'ont lu, on va pouvoir faire des questions. C'est ça qu'on peut retenir, c'est ce qui se fait partout pour l'agriculture, c'est pareil, c'est la perte des savoirs paysans, enfin, la perte des savoirs locaux, face à une standardisation des pratiques qui est du coup encadrée par des sciences et de la technologie et une montée en puissance qui devient un peu hégémonique des sciences bio et de la technologie pour voilà, à tel point que on dit un peu en France que s'il n'y avait pas la technologie et des aides des scientifiques pour aider les apiculteurs, il y aurait moins d'abeilles ou plus d'abeilles. Elles n'arriveraient pas à les abeilles, maintenant que les pratiques sont standardisées, elles n'arriveraient pas à lutter contre l'absence de ressources en eau, en fleurs, enfin, l'appauvrissement des paysages. Voilà, elles ont, et puis, les infestations en varroa, on va en reparler. Évidemment, la charge en pesticides qu'on voit partout, qui est dans tous les environnements. Donc voilà, les articles... Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Elsa? Il me semble que...
On pourra, enfin, si vous avez des questions... Là, on a amené quelques livres, si certains sont intéressés, on vous les donne volontiers, si vous voulez en savoir plus. Et donc, je reprends, je reprends le fil. Donc nous, du coup, là, on va se centrer sur nous, nos travaux à nous. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, donc, on a finalement eu des projets qui ont été financés par de l'argent européen ou par de l'argent de l'État, on va dire. Et on a eu 3 projets en même temps qui ont été financés. C'est aussi le problème de la recherche sur projet, c'est que des fois, il y a trop de projets en même temps et c'est compliqué à gérer. Donc, un premier projet qui a porté sur la sélection génétique des abeilles, c'était un petit projet qu'avec des chercheurs en sciences sociales. Et les 2 autres projets portaient sur la santé des abeilles. Et ces 2 autres projets étaient pluridisciplinaires et c'était en collaboration avec des biologistes et des biostatisticiens. Donc c'est d'un de ces projets dont on va parler plus longuement. C'est un projet qui associait aussi les instituts techniques de l'abeille et des apiculteurs. Et on va essayer, à partir de la présentation de ce projet, de réfléchir à la place des savoirs scientifiques dans les mondes apicoles et des savoirs scientifiques dans notre monde à nous, à partir de la collaboration difficile qu'on a eue avec les biologistes et les biostatisticiens. Voilà. Donc, ce projet qui s'appelle VIVA, Vivre avec Varroa, je vais vous expliquer ce que c'est que Varroa, ce sont les biologistes qui sont venus nous chercher, parce qu'il disait vouloir avoir une connaissance plus fine de la façon dont les apiculteurs vivent avec varroa. C'est ça l'objectif de ce projet. Varroa, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parasite externe de l'abeille qui est venu d'Asie du Sud-Est, qui vivait sur l'abeille asiatique en relative harmonie, en tout cas qui ne tue pas l'abeille asiatique, mais avec les échanges commerciaux et scientifiques, ce parasite a progressivement circulé vers l'Europe de l'Ouest pour envahir toutes les colonies d'abeilles domestiques à partir du début des années 1980, au gré donc de ces échanges. Et on peut dire que depuis une 30aine d'années en France, en tout cas, 2 camps s'opposent assez violemment autour de la cause de ce qui est considéré comme la cause principale de la disparition des colonies d'abeilles. Pour un camp, c'est Varroa qui est le principal responsable de la disparition des colonies d'abeilles. Et pour l'autre camp, ce sont les pesticides, et notamment la nouvelle génération, les néonicotinoïdes, qui sont responsables de la disparition des colonies d'abeilles. Donc ils s'opposent au travers des syndicats. Et pour le camp des pesticides, parce que les gens qui soutiennent, enfin les chercheurs notamment, ou les apiculteurs qui disent ça, disent que les abeilles sont tellement affaiblies par ce qu'elles trouvent dans l'environnement qui est complètement pollué et empoisonné, qu'elles ne peuvent pas supporter ce parasite. Or, si elles étaient en bonne santé, elles pourraient vivre avec Varroa, comme le fait l'abeille asiatique. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça un peu leur argument. Bon, il y a un terrain d'entente qui a été un petit peu trouvé dans les années 2000-2010 pour dire que, bon, ben, finalement, la disparition des abeilles, il y a des causes multifactorielles. C'est un ensemble de choses, mais... pour les tenants pour le camp des pesticides, en fait, Varroa, c'est un peu un contre-feu allumé pour détourner l'attention de la nocivité des produits chimiques. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça un peu l'idée. Donc, bref, notre projet Viva, il a pris, il s'est exercé aussi dans ce contexte-là. Donc, nous, on a été happé en gros par le camp entre guillemets Varroa. Et donc, ce projet, il était intéressant au départ, en tout cas. Il portait sur trois régions françaises, le sud, la région sud PACA, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Centre, parce que d'un point de vue apicole, ce sont trois régions très différentes. Et ça semblait intéressant de les comparer, ou en tout cas de travailler dans ces trois régions. Et donc, ce projet était décomposé en trois tâches différentes. Une tâche ethnologique, auquel on a participé, mais il y avait aussi un petit collectif d'enquêteurs, jeunes chercheurs ou moins jeunes chercheurs en ethnologie SHS. Il y avait une deuxième tâche, on va dire, biotechnique, de mesures faites dans les ruchers, j'y reviendrai un petit peu, et une troisième tâche statistique qui était censée, mettre ensemble, réfléchir ensemble les résultats de l'approche ethnographique et les résultats des mesures menées dans les ruchers. Donc nous, puisqu'on est au bistrot des ethnologues et qu'on est ethnologue, on va un peu plus se centrer sur l'approche, on va dire, ethnologique. On a commencé par faire une cinquantaine d'entretiens auprès d'une cinquantaine d'apiculteurs de ces trois régions. Donc entretiens à partir de ces entretiens semi-directifs, classiques, pas seulement parce que, en fait, on avait une grille d'entretien, comme c'est un projet justement financé par l'argent européen, on était assez contraints. Donc, on avait une grille d'entretien qu'on a passée un peu mécaniquement, on va dire, auprès d'une cinquantaine d'apiculteurs. Et ensuite, avec les biologistes, on a sélectionné 12 apiculteurs, 6 en région PACA et 3 en région Nouvelle-Aquitaine et 3 en région Centre, auprès desquels on a fait ce qu'on appelle un suivi plus ethnographique, enfin ethnographique entre guillemets, qui a consisté à passer 2 à 3 semaines chez ces 12 apiculteurs. Donc, on était plusieurs à se répartir le travail, pour essayer de mieux comprendre leurs pratiques de soins de varroa et plus largement comment ils conduisent leurs colonies d'abeilles. Est-ce qu'ils mettent eux-mêmes des produits chimiques dans la ruche parce qu'il y a des traitements chimiques pour lutter contre ce parasite, ou bien est-ce que, comme certains apiculteurs nous l'ont dit, pour eux c'est hors de question de mettre des produits chimiques pour lutter contre varroa. Donc voilà, on essaie de décrypter, de comprendre pourquoi les apiculteurs, au fil des entretiens, des discussions informelles, avaient des pratiques différentes autour de la gestion de varroa. Ensuite, en parallèle, les biologistes venaient dans les ruchers de ces 12 apiculteurs faire des mesures pour essayer de quantifier la charge en varroa et de corréler la charge en varroa avec les stratégies utilisées. Est-ce qu'ils utilisent des produits chimiques? Est-ce qu'ils utilisent ou pas? Bref. Et ensuite, la dernière tâche, une analyse statistique pour essayer de combiner les deux études. Donc là, Dorothée va reprendre la parole pour essayer de nous dire quel type de savoir on a produit dans ce projet.
Les sciences dures?
Tous.
Tous.
Voilà, c'était quel savoir les sciences dures produisent et quel savoir nous on a produit et comment...
Alors les sciences dures produisent des mesures. Voilà, c'est des courbes. Des courbes de corrélation entre traitements chimiques ou bio. Les sciences dures produisent des box plots. Vous savez ce que sont des box plots? Eh bien, les apiculteurs non plus. Et je vous montre à quoi ça...
C'est des figures comme ça. Qui sont censées faire un condensé des mesures...
Non, mais montre parce que c'est... Parce que c'est ça, on dirait un... Voilà.
Ça, c'est le rapport final de notre projet.
Sans une formation solide en art contemporain ou en... Ou en biostatistique, on ne peut pas lire ces schémas. Moi, je veux dire, c'est une vraie question, en fait. Sur,
oui,
je le dis comme ça, parce que je suis envieuse, je n'ai jamais compris ces schémas, je ne comprends pas comment on les construit. Bon. En tout cas, voilà, les sciences dures produisent des courbes de corrélation, ces petits boîtiers, là, ces petits schémas. Et ils ont fait aussi autre chose, là, dans la troisième partie le troisième objectif là, du projet, la troisième étape qui consistait à croiser, nous, ce qu'on avait à raconter, ce qu'on a compris avec nos suivis ethnographiques et eux, comment on peut... voilà, ils ont cherché à... on a cherché ensemble, enfin la consigne c'était de trouver je me rappelle même plus comment ça s'appelle,
des descripteurs des pratiques de lutte contre le varroa.
Mais ça, j'arrive même pas à le présenter parce que j'ai jamais compris. On a eu des heures de discussion assez tendues parce que nous, on était notre petit groupe d'ethnologues, il n'y avait pas que nous, et moi je comprenais pas, j'étais pas la seule, personne comprenait, mais qu'est-ce que c'est un descripteur technique, mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dise ou qu'est-ce que. Et il fallait qu'on... parce que nous, voilà, quel savoir dans l'ordre. Quel savoir, nous, on a produit sur la santé des abeilles ou sur les pratiques des apiculteurs. Ben, on a fait ce qu'on fait dans notre métier d'anthropologue, c'est-à-dire on a produit du récit et on a contextualisé les pratiques. Et donc, on a sous forme de... Ben, si vous avez déjà lu un extrait d'entretien d'ethnologue ou un récit, on a raconté comme en fonction de ce que les gens nous racontaient que... Selon le contexte familial, selon si les apiculteurs sont en reconversion, qu'ils ont une autre carrière avant, ils ont d'autres attentes dans leur pratique. Voilà. Tout notre travail, tout en ethnologie, quel que soit le sujet, consiste à contextualiser ce que font les gens, ce qu'ils disent et pourquoi ils le font et pourquoi ils le disent. Voilà. Donc là, on a considéré que les pratiques apicoles ne faisaient pas exception au reste des pratiques dans la vie. Elles s'inscrivaient dans des trajectoires biographiques et qu'en fonction de l'âge, du statut marital, du niveau d'éducation, s'il y a un autre revenu dans la famille ou s'il n'y en a pas, les traitements sanitaires et la pratique... on n'est pas le même apiculteur, voilà, on a dit ça. Et donc, on a thématisé le rapport à la chimie, puisque c'était ça dont il était question, le traiter ou pas traiter, comment on traite, voilà, dans un contexte global de quelle exploitation apicole je veux mener, quel apiculteur ou quelle apicultrice je veux être. En reprenant le thème, puisque c'est toujours ça qui se passe, du livre, c'est-à-dire écologie versus business. Et si je veux vendre beaucoup de miel parce que j'ai besoin de gagner ma vie, ben faut que je traite un peu plus parce qu'il faut que j'ai des colonies en bonne santé. Voilà, c'est la vraie vie des vraies personnes. Et la difficulté, c'est que ce que je vous dis là, ça ne matche pas avec les biostatisticiens. On ne peut pas faire des... Ils refusent les... Pour eux, les phrases, c'est du verbiage. Les récits, c'est du verbiage. Ce que disent les apiculteurs, c'est du ressenti. Et le ressenti, c'est subjectif et ça compte pas, ça ne se mesure pas. Donc, ça ne compte pas. Donc, ça a été entre houleux, très difficile et horrible, en fait. C'est vrai, il faut le dire.
Oui, parce qu'ils ont expurgé le rapport final de, justement, la partie ethnologique des récits qu'on a fait... des apiculteurs, sans qu'on en soit informé. Donc tout le travail de mise en récit, de contextualisation, qui donne du sens, nous ce qu'on fait en fait, c'est donner du sens. Et ce qui est intéressant, c'est eux, ce qu'ils ont fait, c'est d'enlever, enfin de considérer que l'apiculteur n'est pas capable de donner du sens à sa pratique, et donc ils ont traité les entretiens comme une collection de mots qui ne fait pas sens. Et passer à la moulinette de l'outil statistique, c'est
oui,
ça.
D'un logiciel de traitement de mots. J'ai oublié lequel parce que
oui,
avec ça, peu importe si ça existe en sociologie ou en médias, les analyses médias, mais du coup ça n'avait pas de sens et on ne pouvait pas se retrouver. Donc voilà, là on aborde notre conclusion, discussion, troisième partie, c'est comment travailler comme ethnographe ou ethnologue dans un cadre aussi contraint qu'un projet européen. Qu'est-ce que c'est que l'interdisciplinarité? Comment nous, ethnologues, on travaille avec des sciences expérimentales ou des biostatisticiens? Parce que, évidemment, après, du coup, vous voyez comment c'est. Tout ça s'étale sur plusieurs mois. Donc on en discute quand on vient au labo, on en discute avec nos petits camarades, avec et d'autres ont déjà travaillé, ont déjà des expériences de travail avec des sciences dures ou des sciences expérimentales ou des statisticiens. Et finalement, tout le monde se cogne toujours le nez un peu de la même façon. C'est vraiment difficile de cette histoire d'interdisciplinarité qu'on nous somme de mettre en œuvre. Les bailleurs de fonds, ils nous demandent de mettre en œuvre des dispositifs de recherche qui soient interdisciplinaires, mais dans la réalité, ça ne marche jamais. On s'est fait la remarque aussi assez vite, donc c'est notre, je vous l'ai dit, notre conclusion de discussion, qu'on n'avait pas de matière pour faire un livre d'ethnologue après ces 3 ans de recherche sur projet. C'est-à-dire, les 50 entretiens mécaniques, on a passé le même, c'est le cahier des charges du projet européen. On doit donner dans le projet, pour déposer, pour avoir l'argent, on doit proposer notre grille d'entretien et on doit faire la même grille aux 50, auprès des 50 apiculteurs. Et du coup, c'est tout à fait... Il n'y a plus d'enquête. C'est l'inverse d'une démarche d'ethnologue qui consiste à faire une première série d'entretiens, à capitaliser ce qu'on comprend. Puisqu'on ne comprend pas, ben on va voir d'autres gens ou on va voir les mêmes gens pour dire ben, « j'ai pas compris ça » ou « est-ce que vous pouvez m'expliquer ça » ou « qui je pourrais aller voir pour ?» Et comme ça, on suit empiriquement, on suit des pistes de réflexion se dévoilent. Et c'est à partir de ça qu'on construit un objet et une réflexion et qu'on peut après décrire un petit peu quelque chose du monde social ou ce qu'on en a compris. Et là, c'est impossible. C'est tout à fait contradictoire avec notre démarche. Du coup, on a pris comme objet, parce que ça, on a trouvé que c'était intéressant, eh ben, ce travail qu'on a mené avec les sciences dures, et y compris jusqu'à ce moment final où on a réalisé qu'on avait été zappé du rapport final qui a été distribué, parce que c'est de l'argent de l'Europe, hein, c'est financé, voilà, et qui a été distribué à tous les apiculteurs qui ont participé au projet. Et donc là, c'est ce qu'on est en train d'élaborer, comment faire, c'est on voudrait retourner voir les apiculteurs et les apicultrices qui ont participé au projet, leur poser aussi des questions sur comment ils reçoivent les box plots. J'ai du mal à le dire, j'ai déjà assisté avec Elsa au cours de notre terrain, on a assisté à des réunions collectives dans les associations pour le développement de l'apiculture. C'est des petites, petites ou grandes d'ailleurs, associations qui regroupent des apiculteurs d'une région et en général en collaboration avec des scientifiques, jamais des sciences sociales, mais plutôt des biologistes de l'INRA. Donc on a assisté à plusieurs de ces réunions et voilà, maintenant, ça serait ça notre matériau de travail. C'est en fait de réfléchir à la fois à l'appareillage bureaucratique qui est ordonné par la recherche sur projet et comment nous, ethnologues, on peut travailler là-dedans, et aussi la place hégémonique que prennent les sciences expérimentales et les biostatistiques, c'est comme ça, ouais, en apiculture et peut-être plus largement en agriculture. Ils deviennent...
Parce que surtout, en nous enlevant du rapport, ça semble anodin, on leur en veut pas. C'est juste que c'est quoi l'acte de connaissance qu'ils ont fait ? C'est empêcher de penser autrement que par la mesure, en fait, qu'eux portent pour analyser l'apiculture. Ils mesurent, j'ai rien contre les mesures. Mais on aurait pu laisser aussi nos récits, une autre manière de penser le monde, une autre manière de réfléchir ou de produire du savoir. Or là, cette manière-là, voilà, elle disparaît totalement et il ne reste plus que les comptages, les mesures qui apportent des choses. Mais il y a aussi d'autres manières de penser. Donc ça appauvrit aussi, en termes d'anthropologie des connaissances qui nous intéresse, dans lequel on se situe, bon, ça appauvrit considérablement, on trouve, le rapport au monde, quoi, en fait.
Et du coup, les sciences dures imposent l'idée, donc c'est bien dans le rapport, là, Viva, en enlevant... tout ce qui est savoir locaux, puisque nous, on se fait l'écho des savoirs locaux, des savoirs d'expérience hyper documentés, des apiculteurs qui, quand même, voilà, voilà, connaissent leur travail. Et donc, ils imposent l'idée que la solution aux différents problèmes écologiques que rencontrent les abeilles, la solution serait technique. La solution, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui, voilà, ils détiennent la solution. Et donc, en évinçant tous les autres savoirs, toutes les autres compétences, toutes les autres approches, ne reste que l'idée que la solution est technique, alors que, voilà déjà 30 ans, 40 ans, James Ferguson disait que les solutions doivent être politiques. Il reprenait en ça les écoféministes et d'ailleurs un certain nombre de savoirs écoféministes, mais pas seulement, sur l'idée que les savoirs locaux sont importants, que ces questions doivent être politisées, la question du rapport à l'environnement et à l'écologie, et l'écologie versus business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de comment on traite l'environnement, comment, enfin, le rapport au capitalisme. On pourrait aussi considérer, d'aucuns le font, que ce sont des questions éminemment politiques et finalement beaucoup moins techniques, ou que la solution n'est pas technologique. Et voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir, et on vous remercie pour votre attention. On a parlé 45 minutes, on a tenu la consigne, on a présenté des matériaux ethnographiques et voilà, discuté notre travail.
Merci pour votre écoute.